France Inter.
Merci de nous écouter. Voilà le journal et Céline Asselot. Bonsoir Céline.
Bonsoir Fabienne. Bonsoir à tous. Un texte qui parle d'immigration, des partis qui se déchirent et des élections qui approchent à grands pas. Tous les ingrédients étaient réunis à Bruxelles pour faire du débat sur le pacte migratoire. Un moment de tension, les eurodéputés finalement ont adopté cette vaste réforme. On rejoint notre correspondante au début de ce journal. Comment faire 10 milliards d'euros d'économies cette année et encore 10 milliards? Voilà désormais l'équation du gouvernement qui revoit à la hausse ses prévisions de déficit public. Mais pas question officiellement, on le verra, de parler d'austérité. On entendra aussi les habitants de la bande de Gaza qui fêtent l'Aïd aujourd'hui dans la détresse et dans les ruines. On ira à Romans-sur-Isère où un adolescent a été tué. Il tentait de s'interposer dans une altercation entre jeunes dans un quartier sensible. Dans l'actualité également ce soir, la défense de Jacques Doyon, le réalisateur accusé de viol sur mineur par Judith Godrèche, s'exprime pour la première fois. Un nouvel espoir pour les asthmatiques. Des chercheurs français ont identifié une molécule responsable du déclenchement de l'allergie. Et puis ce sont les meilleurs ennemis de l'Europe. Le PSG et le Barça s'affrontent ce soir en Ligue des Champions. On part au Parc des Princes à la fin de ce journal.
France Inter.
Cela fait des années que le sujet suscite les tensions et les divisions. Il est devenu plus politique à mesure qu'approchaient les élections européennes, à tel point qu'il était difficile de savoir qui allait voter quoi. Finalement, le Parlement européen adopte ce soir le fameux pacte sur l'asile et la migration. Bonsoir Angélique Bouin.
Bonsoir
vous
à tous.
Vous êtes en direct de Bruxelles pour France Inter. Alors pour résumer cette vaste réforme, disons qu'elle durcit fortement les conditions d'entrée dans l'Union européenne et puis qu'elle met en place un système de solidarité entre les États qui doivent tous contribuer financièrement ou bien relocaliser des demandeurs d'asile. Au total, 10 textes, fruit d'un compromis, Angélique, qui a été très difficile.
Oui, la réforme est d'ailleurs adoptée, mais avec de faibles majorités et nombre d'abstentions. Et grâce aux voix des trois premières familles politiques du Parlement européen, la droite, les sociodémocrates et les centristes, précisons que les eurodéputés français socialistes et les républicains n'ont pas voté en faveur de tous les textes. Fabienne Keller, eurodéputée macroniste et rapportrice de l'un des règlements clés, avant ce vote jugé crucial pour organiser enfin, dit-elle, la politique migratoire de l'Union, elle avait appelé à la responsabilité de tous.
Ce pacte ne résoudra pas tout, mais c'est un pas en avant, un pas de géant vers un réel contrôle et une bonne gestion humaine de l'immigration en France, en Europe et sur notre continent.
Une réforme contre laquelle s'est battue l'extrême droite, l'eurodéputé français du RN Jordan Bardella a estimé lors du débat qu'elle organisera, je le cite, la submersion.
Nos pays seront contraints d'accueillir des milliers de migrants dans leurs villes et villages, ou bien payer et payer cher pour en être épargnés. Bruxelles veut répartir, nous voulons faire repartir.
Pour d'autres raisons, les Verts et l'extrême gauche européenne ont également voté contre cette réforme. L'eurodéputée verte belge Saskia Brikmont estime que c'est sous pression de l'extrême droite justement que certaines dispositions qu'elle juge inacceptables ont été introduites.
Vous allez céder à la rhétorique de l'extrême droite, pour qui il ne sera jamais suffisant de refouler, jamais suffisant d'enfermer des enfants avec leur famille à nos frontières, de ficher des enfants dès l'âge de 6 ans.
Cette réforme désormais votée devra être validée par les États membres et pourrait donc entrer en vigueur en 2026.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, salue ce soir un énorme pas pour l'Europe. Merci Angélique Bouin, correspondante de France Inter à Bruxelles. Bruxelles qui veille aussi à l'équilibre budgétaire de ses États membres. 3% du PIB, c'est le déficit maximal autorisé. Et la France en est loin. Le déficit public a atteint 5,5%. L'année dernière, il sera encore de 5,1% du PIB en 2024. Le chiffre a été dévoilé aujourd'hui par Bercy. Conséquence, pour rentrer dans les clous en 2027, il va falloir faire encore des économies. En plus des 10 milliards d'euros déjà annoncés, il va falloir trouver dès cette année 10 milliards supplémentaires. L'année prochaine, ce sera 20. Et pour cela, il faudra faire des réformes en profondeur avec le risque de lester la croissance. C'est l'alerte que lance Mathieu Plane de l'Observatoire français des conjonctures économiques au micro de Mathilde Dehimy.
Le risque toujours, c'est une spirale de l'austérité. Quand vous cherchez à tenir une trajectoire budgétaire et que vous partez d'un point qui est plus dégradé que prévu parce qu'il y a moins de croissance, vous allez chercher soit à réduire fortement les dépenses publiques, soit à augmenter les impôts. Mais on voit bien que forcément, ces éléments-là ont un impact sur le revenu des ménages, sur leur pouvoir d'achat, sur les aides et les transferts aux entreprises, sur leur compétitivité, leur profit et donc l'investissement. Et donc tout ça a un effet sur la croissance. Et plus les montants sont importants, forcément, c'est difficile de faire des économies, j'allais dire, magiques. Si on va trop loin et trop fort du côté de ces ajustements budgétaires, alors on risque d'avoir des déceptions du côté de la croissance. Or, moins de croissance, c'est aussi moins de recettes fiscales. Et donc, les déficits baissent moins vite que prévu, ce qui pourrait conduire à faire encore plus d'économies que prévu. Le risque, c'est de rentrer dans cette spirale-là. Et donc, il faut trouver le bon point d'équilibre.
Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Du service politique de France Inter. La spirale de l'austérité, dit Mathieu Plane de l'OFCE, ce n'est évidemment pas ce que souhaite le gouvernement. L'épice, c'est de demander plus d'efforts aux administrations de l'État, aux collectivités locales, de réfléchir à une taxation des rentes. Dans tous les cas, Emmanuel Macron veut absolument éviter que la question des économies ne se retrouve au cœur du débat public.
Oui, en faire une mesure presque administrative, un réajustement et non un événement. Un projet de loi aurait donné une toute autre ampleur à cette décision. Or, l'Élysée se méfie des effets dans l'opinion. La confiance se gagne goutte à goutte. Elle se perd par litre, entendait-on ce matin au Palais. Traduction, un symbole négatif dans le monde économique peut tout faire basculer. Oublier le plein emploi si l'ambiance est à la rigueur. Le président va donc contourner les règles en vigueur. Sur le papier, impossible d'annuler plus de 1,5% des crédits ouverts, ce qui correspond à 12 milliards. Pour en économiser 20 cette année, des lingots resteront donc au chaud. Il a évoqué en Conseil des ministres des constructions de prisons ou de commissariats qu'il faudra retarder. Les collectivités locales seront aussi mises à contribution. Éviter le projet de loi, c'est aussi éviter le risque d'une motion de censure portée par la droite. C'est estirer une balle dans le pied, résume un ministre qui a fait ce matin face à un Emmanuel Macron assez glacial. Quand je lis la presse, je me dis qu'on fait vraiment tout ce qu'il faut en ce moment pour perdre les européennes. Il veut vite tourner la page de cette séquence budgétaire et a failli répéter sa formule de janvier. Je veux des états de service et non des états d'âme, laissant entendre qu'une claque électorale provoquerait des départs dans le gouvernement.
Merci Maxence Lambrecq du service politique de France Inter. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement dit vouloir s'attaquer au tabou du licenciement des fonctionnaires. C'est Stanislas Guérini, invité ce matin de France Inter, qui a jeté ce sujet épineux au cœur du débat. Le ministre de la fonction publique estime que le licenciement pour insuffisance professionnelle, certes existe, mais qu'il est mal défini, peu appliqué. 13 cas en 2022 sur un total de 2,5 millions d'agents. La CGT dénonce la casse du statut de fonctionnaire, mais du côté des usagers et des agents eux-mêmes. Bonsoir François Ventejou.
Bonsoir.
On n'est pas forcément opposé à une évolution des choses.
Pas opposé, voire même enchanté. Nisrine est algérienne, elle est arrivée en France il y a 5 ans pour les études. Quand on lui parle de l'administration française, elle soupire, elle qui doit renouveler régulièrement son titre de séjour.
Il m'arrive d'être en France sans papier, sans rien, parce que juste les procédures ont été très lentes. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas prendre l'avion. Limite, je travaille en noir parce que je n'ai pas de papier.
Des propos qui ne surprennent pas. Samantha, son prénom a été modifié. Elle a la trentaine et travaille dans la fonction publique depuis plusieurs années.
Pour moi, chacun reste dans son champ de compétences sans forcément chercher à aller plus loin. Il suffit qu'il y en a un, par exemple, qui soit absent, et ben les dossiers ne suivent pas. Et du coup, ben, c'est très long, le traitement des dossiers, donc les gens s'impatientent et je trouve ça compréhensible, en fait.
Elle dit même que la qualité se perd au sein de la fonction publique. Elle compare le statut de fonctionnaire à un totem.
Chacun a sa réputation dans la fonction publique, tout le monde se connaît. Il y en a, par exemple, qui ont des fortes réputations. Ils le disent clairement que, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire contre eux, puisque de toute façon, ils sont dans la fonction publique. C'est des personnes, parfois, que tout le monde sait la réputation, que ce n'est pas forcément des grands travailleurs, mais ils restent parce qu'on ne peut rien faire contre eux, en fait.
Une situation, forcément, qu'elle regrette. On n'est pas au Club Med, ajoute-t-elle, et assure que le licenciement ne doit pas être un gros mot.
Merci François Ventejou pour toutes ces précisions. Autre sujet épineux, celui de l'emploi des seniors. Après des heures de négociations, syndicats et patronats se sont séparés la nuit dernière sur un constat d'échec. Pas d'accord sur la retraite progressive, qui permettrait de basculer en temps partiel en fin de carrière. Pas d'accord non plus sur les reconversions professionnelles pour le député Renaissance Marc Ferracci, joint par Maxime Debs. Tout cela constitue quand même des bases pour un projet de loi sur le travail qui pourrait arriver au Parlement à l'automne prochain.
Pas de répit dans la bande de Gaza pour le premier jour de l'Aïd.
La nuit dernière, 14 personnes ont été tuées dans une frappe israélienne, selon le ministre de la Santé du Hamas, donnant un goût amer à cette fête qui est pourtant l'un des temps fort du calendrier musulman. Alors comment célébrer la fin du Ramadan après 6 mois de guerre depuis Ramallah, où elle est la correspondante de France Inter, Alice Froussard, a pu recueillir les témoignages d'habitants de Gaza.
Dans une cuisine de fortune à Rafah, des femmes sont regroupées. Salma nous raconte qu'elle emballe des pâtisseries dans des petits sacs de plastique.
Nous avons fait des cakes. Ce sont les petits gâteaux que l'on prépare pour l'Aïd. Même si on est en peine dans nos cœurs, c'est notre manière d'essayer d'apporter de la joie dans le cœur des autres. Que Dieu nous protège et donne à nos familles, nos voisins, un peu de réconfort.
Cette année, le premier jour de l'Aïd a une saveur particulière à Gaza. Pas de célébration, pas de nouveaux habits ni de jouets pour les enfants aujourd'hui. Plus qu'un autre jour, les Gazaouis ressentent les absents. Car l'Aïd est une célébration familiale. Beaucoup ont perdu un père, une sœur, un enfant dans les bombardements.
On se ment à nous-mêmes pour tenir. On se dit chaque jour que ça ira mieux ensuite. Mais ce qui arrive est chaque jour de pire en pire.
La plupart n'ont surtout rien à manger, ni la place mentale pour célébrer. Voilà pourquoi Rada tenait à l'initiative.
Même si la situation économique est compliquée, que c'est la guerre, avec ma belle-sœur, on a voulu se réunir avec des femmes pour cuisiner et ensuite distribuer ces cakes. Pour beaucoup, c'était une manière de ramener de la normalité. Les jeunes nous ont fourni les ingrédients, la semoule par exemple, mais c'est très cher, 100 shekels le kilo.
Toutes espèrent une chose, que pour le prochain Aïd, la guerre sera terminée.
Reportage depuis Ramallah, signé Alice Froussard. Ce soir, le chef du Hamas palestinien annonce la mort de 3 de ses fils et de plusieurs petits-enfants dans une frappe israélienne à Gaza. Il prévient que cette attaque ne fera pas plier son mouvement. La paix semble très loin aussi en Ukraine et la Russie a d'ailleurs annoncé qu'elle ne comptait pas participer à la conférence sur la paix organisée au mois de juin prochain par la Suisse. Les États-Unis, eux, ont confirmé leur participation. Le Kremlin dénonce un projet américain. Le Kremlin qui reconnaît, et c'est suffisamment rare pour être souligné, ses difficultés face aux inondations record dans le sud de la Russie. La situation est très très tendue, dit le porte-parole de la présidence russe. L'eau continue à monter. Plus de 100 000 personnes ont été évacuées ces derniers jours.
Un nouveau cas de violence entre adolescents vient renforcer l'inquiétude des pouvoirs publics.
Oui, après l'agression de Samara à Montpellier, après la mort de Chemseddine à Viry-Châtillon, c'est un jeune homme de 15 ans qui a été mortellement poignardé hier soir à Romans-sur-Isère dans le quartier sensible de la Monnaie. Et il avait voulu, Alexandre Roberto, s'interposer dans une bagarre.
Une altercation entre deux jeunes qui dégénèrent, un ami d'un des deux qui tente de s'interposer et qui prend un coup de couteau mortel. Cet après-midi, le procureur de la République confirme le scénario que tout le monde au quartier semble déjà connaître. Youssef est un habitant de la Monnaie.
C'était une petite embrouille entre ados et ça s'est mal fini. C'est vraiment dommage, il ne méritait pas. C'était un petit jeune sans histoire, sans rien. Au quartier, on est tous choqués. Hein. On perd un ange, c'est pas un gamin qui fout le bordel. Donc c'est vraiment... On est triste.
Le procureur de la République précise que l'homme interpellé n'est pas l'auteur probable du coup de couteau mortel. Celui-ci reste donc recherché. Il ne vient pas du quartier de la Monnaie, mais d'un autre à proximité. Sur place, aujourd'hui en tout cas, la tension est palpable. Les journalistes, pas forcément les bienvenus. Il faut dire que le quartier est marqué, il a été stigmatisé suite au meurtre de Thomas à Crépol au mois de novembre. Les jeunes restent défiants. Du côté des forces de l'ordre, on dénonce aujourd'hui un manque de moyens. Dans le secteur, on compte la nuit seulement un policier pour 11 000 habitants.
Alexandre Berthaud de France Bleu Drôme Ardèche pour France Inter. Son nouveau film CE2 aurait dû sortir il y a 2 semaines, reporté par son distributeur après les accusations portées par Judith Godrèche qui l'accuse de viol sur mineur. Le réalisateur Jacques Douai a décidé de sortir de son silence ce soir. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir.
À 80 ans, il est poursuivi également pour agression sexuelle et harcèlement par Ethil Lebesco et Anne Mouglalis. Il a donné dans le bureau de son avocate, Marie Dosé, une interview exclusive aux Parisiens.
Voilà, il a décidé de parler pour donner point par point sa version des faits parce qu'il n'entend depuis 2 mois que des ignominies à son sujet dans l'interview qu'il donne aux Parisiens. Jacques Doyon l'affirme, jamais il n'a été attiré par Judith Godrèche, qu'il a accuse de l'avoir violée sur le tournage de La fille de 15 ans à la fin des années 80. Lui vivait à l'époque avec Jane Birkin, dont il était amoureux. Il ne s'est jamais rien passé avec la comédienne, ni dans son bureau, ni ailleurs, repoussant d'un revers les accusations à propos d'une scène de sexe jouée au pied levé en remplacement d'un comédien qui ne connaissait pas son texte et pour laquelle il jure n'avoir jamais tourné 45 prises, ni même 20, comme l'a écrit plus tard Jane Birkin dans son journal intime Monkey Diaries. Des femmes, selon lui, qui exagèrent, qui se trompent. Le cinéaste se dit stupéfait, en colère, désireux, avec sa plainte en diffamation, de protéger ses enfants les plus jeunes, qui à l'école n'entendent, je cite, que des choses dégueulasses. dégueulasse sur leur père. En 35 films, il reconnaît une idylle ou deux avec des comédiennes, jamais avec des mineurs. Jacques Doyon se dit victime d'un effet de meute et renvoie la faute lorsqu'on l'interroge sur le casting de son dernier film, CE2, visé également par une enquête. Il conclut l'entretien en citant Jules Renard. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met du temps, mais finit toujours par arriver. De son point de vue, le mal est fait, néanmoins, sa carrière est foutue. Lâché par tous, il n'a plus de projet, tout ça à cause d'accusations dégueulasses qui ont atteint leur but, la mort sociale. Fermez les guillemets.
Corinne Pellissier, service culture de France Inter. Un blessé grave à 7 dans l'Hérault après une explosion suivie d'un incendie dans une usine du groupe Cepol. Ça s'est passé cet après-midi. L'usine est classée Céveso seuil bas. C'est le premier échelon dans les niveaux de risque établis en fonction de la présence de matières dangereuses. L'incendie est maintenant terminé, mais les fumées qui se sont élevées sur le port sont impressionnantes. Écoutez le témoignage de Cédric. Il est grutier sur le port de Sète. Il a été confiné pendant une heure avec ses collègues.
Il y avait un peu de panique. Quand on voit cette grosse fumée, quand on voit les silos autour, quand on sait qu'il y a du carburant, si ça venait à exploser, c'est sûr que toute l'enceinte du port serait rasée, quoi. Il y a eu quand même une petite inquiétude. Notre responsable sécurité nous a dit que la zone en question n'était pas une zone vraiment à risque, quoi. Il n'y avait pas de risque majeur d'explosion, quoi. Les silos qui contiennent du carburant étaient plus loin. Les pompiers sont intervenus de suite. On maîtrisait le feu, donc voilà, tout s'est bien passé.
Témoignage de Cédric Grutier au port de Sète, recueilli pour France Inter par William Delesseux. Cela concerne 4 millions de personnes en France. L'asthme est une maladie respiratoire qui peut être grave, voire mortelle dans certains cas, d'où l'espoir suscité par la découverte d'une équipe de chercheurs de l'INSERM, du CNRS et de l'Université Toulouse 3. Ils ont identifié une nouvelle molécule présente dans les voies respiratoires et qui fait partie des responsables du déclenchement de la réaction allergique. Et cela permet, Rémi Brancato, d'envisager à moyen terme de nouveaux traitements.
Il y a 20 ans, Jean-Philippe Girard, chercheur au CNRS, directeur de recherche à l'INSERM, a découvert avec son équipe de l'Université Toulouse 3 une molécule. Elle réagit dans les voies respiratoires quand le corps est exposé à un allergène.
15 minutes après, on a la libération par les cellules qui tapissent les poumons, les alvéoles, les bronches, de signaux d'alarme qu'on appelle les alarmines. C'est ça qui va ensuite déclencher toute une cascade de réactions à l'origine de l'allergie.
Jusqu'ici, deux alarmines étaient connues, alors les laboratoires pharmaceutiques testent des traitements par anticorps pour les bloquer, notamment pour soigner les malades de la BPCO, maladie chronique qui obstrue les bronches.
Si on bloque l'alarmine dès le départ, on bloque toute la cascade de réactions, on réduit les exacerbations. Et ce sont les exacerbations qui peuvent entraîner des réactions graves allant jusqu'au décès des patients asthmatiques ou des patients atteints de BPCO.
Jean-Philippe Girard et son équipe dévoilent donc la présence d'une troisième alarmine, TL1A, c'est son nom. Et pour elle, la recherche clinique ne part pas de zéro.
Les anticorps contre la nouvelle alarmine, ils sont déjà développés pour d'autres maladies qui n'ont rien à voir avec les maladies du poumon, qui sont les maladies inflammatoires de l'intestin, la maladie de Crohn notamment. Ça fait 20 ans qu'on travaille sur ces alarmines. On se dit que là, on va vraiment avoir un impact. Ouais.
Le chercheur estime que des essais cliniques sur les voies pulmonaires pourraient avoir lieu d'ici 5 ans.
Précision signée Rémi Brancato. C'est un duel devenu quasiment un classique du football, synonyme de rebondissements improbables et de rivalités exacerbées. Le PSG et le Barça s'affrontent encore ce soir en Ligue des Champions. Bonsoir Nicolas Perronnet.
Ah, bonsoir.
Vous êtes en direct du Parc des Princes où va donc se jouer ce soir ce match aller des quarts de finale de la compétition européenne. Et on sent que les deux camps ont fait monter la tension ces derniers jours.
Ah oui, ça a commencé sur les réseaux sociaux, alors pas bien méchant, mais pour mettre dans l'ambiance quand même une photo publiée par le FC Barcelone de la Joconde rhabillée aux couleurs blaugrana, aux couleurs du Barça, le club catalan décidément très inspiré, hein, puisqu'on s'en est suivi un vidéomontage avec cette fois une montgolfière toujours aux couleurs barcelonaises s'envolant devant la Tour Eiffel. C'est un chambrage assez inhabituel, hein, d'ordinaire réservé au match face au grand rival, évidemment le Real Madrid, mais qui illustre bien cette rivalité européenne grandissante, c'est vrai, entre le PSG et le Barça, sur fond, vous l'avez dit, de remontada en 2017. L'arrête toujours dans la gorge des supporters parisiens qui, eux, ne sont pas en reste. Hein. Le collectif Ultra Paris a de son côté publié un communiqué appelant à vaincre, je cite, l'ignoble Barcelone. Et puis, il y a les petites piques des toutes dernières heures. Hein. Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, ancien de la maison catalane, assurant très sérieusement en conférence de presse qu'il représente mieux la l'ADN du Barça que son actuel entraîneur Xavi. Le président de Barcelone, Juan Laporta, déclarant lui qu'il n'échangerait aucun de ses joueurs contre un joueur du Paris Saint-Germain. Voilà le contexte, vous l'aurez compris, est posé. Ce PSG-Barça s'annonce bouillant à la hauteur de l'enjeu, prendre dès ce soir une option sur une demi-finale de Ligue des Champions.
Merci Nicolas Perronnet. Le PSG face au FC Barcelone, c'est donc tout à l'heure à partir de 21h. Et puis si vous êtes davantage natation ou bien tennis que football, sachez que 250 000 nouveaux billets pour les JO vont être mis en vente mercredi prochain, le 17 avril. La moitié de ces billets seront vendus à moins de 100 €, promet le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris.
Allez, merci beaucoup Céline Aslo. Et à demain, dans un instant, c'est le téléphone sonne, on parle d'hôpital, mais pas seulement, on parle avec Sylvie Hoffmann, avec Sébastien Lifshitz, il y en a une qui est infirmière, et l'autre qui vient d'entrer dans le studio, formidable, tous les deux, et l'autre qui est documentariste, on y vient dans un petit instant, la météo d'abord.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Olivier Proust, encore quelques averses cette nuit entre les Alpes et la Corse.
La dépression méditerranéenne tarde à s'éloigner vers la Sardaigne et la Tunisie. Quelques averses circulent encore cette nuit entre Côte d'Azur et Corse et il neige sur les Alpes frontalières. Mais tout ça va vite se dissiper demain matin. Mistral et Tramontane seront encore sensibles demain, mais en nette baisse, et il va faire beau tout autour de la Méditerranée.
Et les hautes pressions s'étendent sur le pays.
Et la nuit sera calme, souvent bien dégagée, favorisant quelques gelées faibles dans le nord-est et des brouillards dans le sud-ouest. Ils se dissiperont très vite et la journée sera bien ensoleillée sur la façade est et toute la moitié sud. Mais plus au nord, autre ambiance. Une perturbation s'est glissée sur le nord-ouest aujourd'hui. Demain, le ciel restera encombré toute la journée au nord de la Loire, avec quelques gouttes de la Normandie au Hauts-de-France. Et les températures seront partout douces, voire très douces, avec 15 à 23 degrés. Vendredi sera encore plus doux, avec du soleil partout. Et samedi, il fera même chaud, avec 25 au nord, jusqu'à 30 dans le sud.
Olivier Proust de Météo France, merci beaucoup.